Sœurs, bienvenue dans votre église, que ce moment de culte puisse vous nourrir et vous aider dans votre semaine. Nous bénissons notre Dieu, c'est lui qui nous a invités et qui nous accueille dans sa maison éphémère et néanmoins consistante. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. En elle est la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole habite parmi nous. Ceux et celles qui la reçoivent deviennent enfants de Dieu. Que la grâce et que la paix soient sur chacun de nous. Aujourd'hui, notre frère Sébastien Grignon vient demander d'être baptisé. Nous avons la joie de l'accueillir, lui et sa demande, et aussi la joie d'accueillir tous ceux et celles qui l'entourent aujourd'hui. Et ensemble, nous nous réjouissons de sa démarche. Bienvenue à tous, mais avant de procéder, nous allons en assemblée chanter. Et exceptionnellement, je vous invite à vous lever pour chanter le chant 2303, toutes les strophes que vous trouvez page 268. En ce jour, veuille accueillir. Et nos chants aujourd'hui ont le bénéfice d'être soutenus par le chœur du Temple, que je remercie.
C'est à la fois un beau jour et un jour étonnant. C'est étonnant pour moi d'être ici et de prendre la parole pour cet événement. Quand je regarde en arrière, que je me souviens de nos toutes premières conversations sur la foi, sur le Christ, je suis ébahie du chemin parcouru qui te mène ici aujourd'hui. Quel voyage! Je n'ai jamais fait mystère de mon christianisme, qui a toujours été une dimension importante de mon identité. Et notre tout premier échange sur ce sujet, je m'en souviens comme si c'était hier, portait exactement là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte d'être chrétien? Qu'est-ce que ça change? Je t'avais répondu en riant, et je m'excuse devant cette assemblée de la sévérité de mon propos, mais il convient d'être précis, je t'avais répondu plus d'emmerdement qu'autre chose. Je t'avais expliqué qu'être chrétien, se revendiquer chrétien, quand on en a une compréhension comme la mienne, qui met au centre le libre arbitre, et le discernement, j'ai été éduquée dans une école jésuite et ça l'aide des traces. Cela complique singulièrement l'existence. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a aucune piste d'interdit à cocher ou à décocher pour être certaine qu'on fait tout ce qu'il faut faire. Ce serait beaucoup trop simple. Et je soupçonne fortement les traditionnalistes et intégristes de tout poil d'être en réalité des gens apprenés en quelque simplicité dans un monde dont la complexité les effraie. Et qui n'ont plus envie que quelqu'un surtout décide à leur place. Le fondamentalisme, c'est une façon efficace d'éteindre son cerveau et de ne surtout plus qui est le Christ. Au contraire, ma conception du christianisme implique que chaque décision doit être prise seule avec soi-même, et qu'elle engage toute la personne, et pas uniquement sa surface. Nous sommes tout entiers dans toutes nos actions, et nul autre que nous ne sait pourquoi et comment pour agir au mieux. Ainsi, pour plagier une phrase de Paul, 1 Corinthiens 10-23, qui nous est cher à toi et à moi, être chrétien, ça signifie que tout est permis, mais que tout n'est différent. Tout est possible, et personne ne viendra nous punir ou nous chasser du paradis si nous nous trompons. Mais nous avons pour toujours la responsabilité de ce que nous choisissons, et nous sommes libres absolument, y compris libres de faire des choix qui nous détruisent ou qui nous font souffrir. Nous avons la possibilité du mal ou de l'erreur, et un seul guide pour essayer d'y voir clair, notre conscience, éclairée par les lumières que nous déciderons de lui donner, la science, l'éthique ou, en ce qui me concerne, le Christ. Le Christ est mon chemin et mon maître intérieur. Ce n'est pas une autoroute facile d'accès, ce n'est pas un chemin très clairement balisé, et je me perds souvent. Ce sont de petits signes cachés, comme des marques distinctes sur un chemin de randonnée, et je sais que cette image te parlera. On peut décider de ne pas y prêter attention. On peut aussi parfois sincèrement ne pas y voir. Mais il est recommandé de le chercher, quand on est plus bien sûr de là où on veut aller. Sébastien, mon ami, sur la route de la liberté dans le Christ, je te souhaite une longue et belle promenade et quelques mètres vers le meilleur.
Frères et sœurs, en tant que témoins, je vous invite à vous relever. Vous êtes toujours les témoins, et un témoin, ce n'est pas simplement quelqu'un de passif, qui reçoit quelque chose, c'est quelqu'un, évidemment, qui est appelé à témoigner. Vous êtes témoins du baptême de Sébastien, ce baptême qui nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est fidèle. Nous qui, peut-être, avons été baptisés, nous sommes de toutes les façons enfants de Dieu par la foi de Jésus, le Christ, qui est mort et qui a été ressuscité pour nous, et nous accueillons Sébastien comme frère dans notre Église. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il vient en s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle, vous l'entourerez de votre affection et vous le soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour du Seigneur. Alors, voulez-vous cela? Et si oui, vous pouvez le manifester en disant en vraie haute voix, oui, nous le voulons. Alors, voulez-vous cela?
Oui, nous le voulons.
Que le Seigneur nous soit en aide. Et nous restons debout pour chanter le deuxième cantique, il est pur de temps, le 4704, toutes les strophes, page 732, confie à Dieu ta route.
Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'aie pour vous tous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu.
Seconde lecture, les deux textes qui sont les textes du jour, ainsi que celui de Sophonie, ont été agréés et donc choisis par Sébastien.
Les foules l'interrogeaient. Que devons donc nous faire ? Il leur répondait que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient. « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondait à tous. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
Du temps de la publication de l'évangile de Luc, des communautés, des gens pensaient encore que Jean le Baptiste était le Christ. Aujourd'hui encore dans le monde, d'abord en Irak, mais aussi désormais, et je dirais hélas, en exil, il y a encore quelques milliers de pratiquants d'une religion qu'on appelle le mandéisme, qui serait, selon une légende, directement reliée à Jean le Baptiste. Des communautés, des gens qui pratiquent le bain purificateur, le baptême, et qui ont une théologie qu'on appellerait dualiste et très axée, pour certains, sur la connaissance, autrement dit, une forme de gnose. Mais ils étaient sans doute, je crois, je n'ai aucune preuve, plus nombreux du temps de l'expansion du mouvement des croyants en Jésus-Christ, si bien que les évangiles, tous les quatre, dont le propos central, je vous le rappelle, et d'élever Jésus dans la dignité du Christ, bien les évangiles ont eu besoin, disons littérairement, de confronter les deux figures christiques, en respectant vraiment la première, celle de Jean le Baptiste, mais justement en la mettant dans une place de première, comme il y eut une alliance première avant que n'arrive, selon les évangiles, une nouvelle alliance, celle-ci incarnée, en effet, par Jésus. Voilà ce que font les évangiles à partir d'un fait que j'ai envie de dire historique, que Jésus fut initialement un disciple de Jean le Baptiste. Les évangiles construisent une sorte de ballet en forme de passation, de pouvoir, un jeu finalement entre un premier profondément respecté, mais aussi replacé ou remplacé dans un nouvel ordre chronologique, ce qui lui enlève donc sa primauté. Notre texte du jour est propre à Luc, et je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, mais pour celui ou celle qui a une culture des textes bibliques, il y a quelque chose qui sonne différent. Il a l'air un peu indépendant, c'est vrai qu'on ne le lit pas souvent. Quand on pose à Jean la question du faire, de ce que l'on doit faire, les réponses émises par Jean sont tout à fait claires et procurent l'impression, a posteriori, que les réponses de Jésus, que l'on connaît mieux, autour du même genre de questions, ne sont pas aussi directes que celles de Jean le Baptiste, qui, lui, n'hésite pas à répondre « Que faire ?»« Eh bien, tu partages tes tuniques, si tu en as deux. » La nourriture aussi, pareil, si tu en as plus que nécessaire. Et si tu es un collecteur de taxes, tu ne vas pas en plus accepter d'être un corrompu. Et si tu es un soldat, tu ne seras pas cruel juste pour le plaisir de ta fonction. Sous-entendu, on la connaît, la cruauté de l'armée romaine. Tu ne vas pas mentir, tu ne mentiras jamais, même si ça t'aide dans ta tactique ou ta stratégie de guerrier, et toi non plus, tu ne vas pas, en plus, t'enrichir personnellement sur le dos des gens dont tu occupes déjà le territoire par la force. C'est lumineux, je trouve. À côté, les réponses de Jésus sont un peu plus difficiles à interpréter, sans exégèse, sans référence au texte de la Bible hébraïque qu'il convoque de la Septante, du livre d'Enoch, sans l'étude aussi, évidemment, de la situation dans laquelle la question qu'on pose à Jésus, en général un piège, est posée. Et j'en reviens à un personnage que j'aime bien, parce que je l'ai noté, il arrive régulièrement dans quelques-unes de mes prédications, à savoir le personnage de la personne, c'est basé sur des faits réels, qui surgit dans mon bureau et qui, sans que je lui demande quoi que ce soit, m'explique le christianisme qui, cher pasteur, ne consiste évidemment pas, par exemple, à aller au culte ou à être membre d'une église quelconque, mais juste à faire ce qui est bien, donc, par exemple, aimer les gens, ne pas leur faire de mal ou ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, cette dernière sentence bien connue, dite la règle d'or, est une sorte de mème antique qui circule dans toutes les traditions et les religions, y compris dans notre Nouveau Testament. Et ce personnage me renvoie, à chaque fois qu'il surgit dans mon bureau, à ma déchéance. 5 ans plus 2 ans de théologie, 34 ans de ministère pastoral, finalement, ont été totalement inutiles, car en fait, ce n'était pas la peine de se casser la tête. Mon personnage sort de mon bureau aussi vite qu'il y était entré, et je n'aurais jamais le courage d'aller fondre sur lui et de le faire douter, par exemple, en lui rappelant que peut-être, le christianisme ne serait pas qu'une morale à appliquer, mais qu'il serait, qu'il est aussi un élan, un voyage, un chemin, qu'il est aussi une suivance, une espérance, une exégèse, un discours sur Dieu, une théologie, un enthousiasme, et qu'il traîne avec lui aussi le fait assez résistant qu'il s'incarne dans des communautés, des églises, qui avant d'être des éclaireuses spectaculaires du règne de Dieu, sont d'abord des laboratoires d'une éthique en situation dans lesquelles on s'aperçoit que la fraternité, l'amicalité, le soin, c'est un combat permanent et que ce combat est enserré dans des grilles multiples d'interprétations. Mais trop tard, mon personnage est parti très loin et très sûr de lui en me laissant tout seul dans ma complexité qu'il identifierait sûrement en bêtise ou en lâcheté. Mais pourquoi pas, au fond? Et s'il avait raison? Et d'ailleurs, cette réponse de Jean le Baptiste, citée par Luc, aide bien le propos général de Luc concernant l'éthique en général, une éthique beaucoup plus concrète, selon Luc, que celle évoquée dans les autres évangiles. C'est quand même bien Luc qui remplace le fameux « heureux les pauvres de cœur » par « heureux les pauvres », tout court. Les destinataires de la bonne nouvelle sont donc les pauvres. Ben, les pauvres, pauvres, hein. Pas juste les pauvres comme ça, les pauvres. Ceux qui n'ont pas de tunique, hein. Ceux qui subissent l'occupation, la violence, la corruption et la morale qui va avec, est aussi clair que les faits qu'il engendre. Alors pourquoi finalement n'avoir pas choisi Jean le Baptiste comme Messie, comme Christ, du moins tel qu'il est présenté dans les évangiles? Jean-Christ, je crois que je suis le premier à dire ça, Jean-Christ plutôt que Jésus-Christ. Je ne crois pas que je sois le premier, ce n'est pas possible statistiquement. 2000 ans de tradition, ce n'est pas possible. Peut-être alors à cause des propos rapportés de Jean qui suivent immédiatement ses premières réponses, et je vous les relis. Je vais vous les relire, non pas dans le ton de Jean, celui qu'on imagine là, agressif, mais je vais vous les relire comme ça. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, ou le souffle sacré, et le feu. Pourquoi finalement n'avoir pas choisi Jean le Baptiste? Parce que finalement l'homme ne baptisera pas d'eau seulement. Cher Sébastien, aujourd'hui je t'ai baptisé d'eau. Mais si je suis la logique du texte que tu as agréé, je signale que je te tutoie après l'acte du baptême, hein, parce que je te baptise, donc je te tutoie. Si je suis la logique du texte que tu as agréé et choisi comme socle de la prédication pour aujourd'hui, en fait, par rapport à toi, par rapport au temps symbolique où tu es présentement, je suis moi, c'est-à-dire moi, l'institution en fait, qui m'a conféré, on va dire, le pouvoir ou la possibilité de te baptiser, je suis et nous sommes dans l'alliance d'avant. Nous étions les premiers, mais toi, tu es dans le nouveau. Et aucun de nous n'est assez honorable de délier la lanière, non pas de tes sandales, mais les lanières des sandales de celui dont tu pourrais désormais recevoir le baptême. Oh certes, ce que les jeunes aujourd'hui appellent désormais la team premier degré, mais qui est bien connue depuis que le monde est monde, face à toute embardée poétique, ben, toutes ces personnes pourraient dire que je t'ai baptisé au nom de ce Jésus-Christ, mais pour exprimer ce que mon intuition me dit de proclamer aujourd'hui, je dois, d'une façon radicale et peut-être un peu poétique, écarter le temps et affirmer que par rapport à toi, je ne suis qu'un homme du passé, moi qui n'ai fait que te transmettre et in extremis le minimum, car désormais c'est le souffle et le feu qui devront être les éléments de ton baptême, pendant que moi, bien, je vais rester les pieds dans l'eau du Jourdain, en attendant que quelqu'un d'autre, demande le baptême et que je puisse l'envoyer in extremis dans le temps qui vient. Ton futur baptême, c'est celui du souffle de Dieu qui te poussera sur ton chemin et te soufflera justement la parole juste quand ce sera nécessaire, qui te conviera à exercer ton devoir de pratiquer une éthique en situation plutôt que de répéter éventuellement une morale fixée d'avance. Et ce sera aussi le baptême du feu qui non seulement éclairera ton chemin dans la nuit, mais qui va consumer ce qui n'a pas ou plus de raison d'être dans un processus de conversion permanent. Mais, cher Sébastien, je reviens maintenant, je m'ébroue un peu, et je reviens maintenant dans notre temps commun. Je sors de la prédication. Voilà, c'est fait. La prédication est terminée. Mais je dois dire quand même que j'ai été heureux de ce parcours catéchétique. Pour te dire aussi, bienvenue dans cette assemblée particulière et tellement diverse, hein, qui est cette église de Port-Royal, quartier latin, qui, je l'espère, va bénéficier de ton aide pour comprendre l'eau, le souffle et le feu, et l'aider aussi à comprendre justement ce qu'elle doit faire en situation, en oubliant tout de même pas un peu trop facilement l'exigence qu'on pourrait qualifier de rugueuse de la morale de Jean le Baptiste. Amen.